avec une nouvelle édition de l'économie en question et nous parlons ce matin de transition énergétique, enjeu majeur du 21e siècle pour la planète, ce qui, on serait en droit de l'espérer, n'est plus à démontrer. 195 pays en décembre 2015 à Paris ont reconnu l'urgence d'une réduction et d'un maintien des températures sur Terre à moins de 2 degrés Celsius, ce qui se passe évidemment par une limitation des gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l'activité, transport, énergie, bâtiment en tête. Problème, cela va coûter très cher. Les efforts des États seuls ne devraient pas y suffire, ni ceux des entreprises ou de la société, aussi louables soient-ils. Il faut donc l'admettre, cela ne se fera pas sans une réelle, une forte contribution du monde tout-puissant de la finance. Mais celui-ci y est-il prêt? À l'heure de la dérégulation financière, de la folle circulation de flux de plus en plus déconnectés de l'économie réelle, le système financier a-t-il pris toute la mesure des dangers du réchauffement climatique? Car la menace pèse évidemment aussi sur lui. Quel levier donc pour entraîner son adhésion, pour le réformer, pour réorienter ces milliers de milliards de dollars en circulation? Les opportunités pour un autre cadre global existent, nous allons le voir, c'est notre débat. Rendu évidemment plus aigu au lendemain de la défection des États-Unis via son président Donald Trump. Transition énergétique, il est temps de financer le climat. Ou pour emprunter son titre à l'un de mes invités, il est temps de climatiser la finance. C'est Étienne Espagne qui a trouvé ce joli titre, économiste au CPI, au Centre d'études de prospective internationale, auteur donc d'une note sur le sujet très récente. Mireille Martini, également notre invitée, spécialiste des financements internationaux, co-auteur d'un rapport tout récent, ça vient de sortir, Régulation financière, urgence climatique, co-auteur avec notamment Alain Grandjean, je reviendrai sur les auteurs un peu plus tard. Maxime Combe, enfin, est en duplex avec nous à Lyon. Il est économiste et auteur, lui, de Sortons de l'âge des fossiles, un manifeste pour la transition. Il est également membre d'ATTAC. Enfin, je vous ai demandé à chacun d'entre vous de venir avec un chiffre. Nous le verrons en toute fin d'émission et on commencera par la chronique de Marie Bellan et son chiffre. Marie, journaliste aux Échos, notre partenaire dans cette émission. C'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bienvenue à tous. Nous parlons donc de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la finance climat, de plus en plus essentielle, on vient de le rappeler très, très brièvement, à l'élaboration d'un accord universel qu'il a été signé à Paris, on le sait, en décembre. Et il est remis en question, en tout cas du côté des États-Unis, notamment les fameux 100 milliards de dollars, j'en parle parce que c'est peut-être la partie la plus visible, et les fameux 100 milliards de dollars, soit à peu près 88 milliards d'euros, annuel que les pays riches ont promis de verser aux plus pauvres à l'horizon 2020. On en a beaucoup parlé, c'est là-dessus notamment que Donald Trump le veut reculer. Régulation financière, urgence climatique, je commence avec vous Mireille Martini, peut-être parce que vous dites dans une note pour présenter ce travail pour Terra Nova qu'il est vital de réconcilier rapidement les modes de financement avec les objectifs climatiques. Réconcilier, pourquoi? Il y avait des accords ou il n'y a jamais eu réelle entente? Est-ce qu'ils se sont déjà croisés?
Je pense que la problématique est tout à fait nouvelle. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut financer manifestement le climat, elle est relativement récente. Je ne pense pas qu'il y ait eu de désaccord. Je pense plutôt que les deux univers ne se sont pas croisés, mais commencent enfin à se rencontrer et que c'est une source formidable d'opportunités pour le climat qui en a besoin, mais aussi pour la finance, pour laquelle le climat est une fantastique, un fantastique champ nouveau, un nouvel Eldorado.
Oui, il faut peut-être commencer par là. Les choses, on parle de climatiser la finance, mais les choses quand même sont déjà engagées, hein, réconciliées. Effectivement, vous avez repris le terme, Étienne Espagne. Il se passe des choses. La prise de conscience est là, mais évidemment encore insuffisante.
Oui, la prise de conscience, elle commence juste avant la COP21, en fait. Enfin, il y a un discours marquant, qui est le fameux discours du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre, Mark Carney, pour la première fois, un banquier central, la plus vieille banque centrale du monde en plus, évoque la question de l'impact du changement climatique sur la stabilité du système financier. Et ça, c'est juste fin septembre 2015. Vient ensuite la COP21. Qui affirme, l'accord de Paris, le fameux accord de Paris, à l'article 2, donc au plus haut niveau juridique même de l'accord, stipule qu'il faut aligner les flux financiers avec les objectifs d'atténuation et d'adaptation. Donc, aligner les flux financiers, le mot est prononcé, sans vraiment forcément savoir encore concrètement ce que ça veut dire. Alors ensuite, eh bien, divers groupes, divers cercles s'emparent un petit peu de la formule et essaient de lui donner le sens qui leur convient le mieux. Et donc, on a par exemple la sphère financière qui s'en empare avec une task force sur l'information carbone contenue dans les actifs financiers, qui travaille pendant toute l'année 2016. Pour essayer de rendre plus transparente cette information sur le contenu en carbone de la sphère financière. Donc on voit que
ce que l'on sait très peu pour l'instant. Il y a beaucoup d'opacité.
Il y avait beaucoup d'initiatives dispersées, etc. L'idée c'était d'un peu de centraliser tout ça, de rationaliser tout ça, de créer un cadre commun, avec l'idée derrière que cette transparence de l'information permettrait d'orienter mieux du coup les choix des investisseurs. Et d'aligner les flux financiers. Mais c'est une vision de l'alignement des flux financiers, c'est seulement une vision, parce qu'il y en a une autre, et Mireille Martini pourra mieux répondre là-dessus, c'est qu'il faut tout simplement réguler la finance en prenant en compte dans notamment tous les ratios imposés au système bancaire ou au système des assurances, en prenant en compte ce risque à long terme qui est le risque physique climatique, ou ce risque à plus court terme qui est le risque carbone, donc le risque d'une transition d'instabilité financière générée par une transition bas carbone.
Parmi les opportunités que signale Mireille Martignon, on va y revenir un petit peu plus tard, l'occasion, rêvons un peu, de reconnecter la finance à l'économie réelle, si elle prend effectivement conscience et qu'elle prend les décisions adaptées pour revenir sur ces enjeux climatiques. Maxime Combes, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, car je sais que beaucoup d'éléments vous inquiètent, notamment dans cette finance qui tarde à rejoindre les préoccupations environnementales.
Bon, tout d'abord, dire que la question...
Vous êtes à Lyon, je le rappelle, on vous salue.
Oui, excusez-moi. Que le financement de la lutte contre les dérèglements climatiques n'est pas une question nouvelle. Que mettre à disposition de la transition énergétique, de la transition écologique, des sommes très importantes, et même au cœur des débats sur les négociations sur le réchauffement climatique depuis plus de 25 ans. Et ça a mis très très longtemps à ce que des sommes qui commencent à être relativement importantes soient mises sur la table. Et donc du coup, c'est au cœur de la conflictualité qui peut exister à l'échelle internationale entre les pays, notamment pendant longtemps entre les pays du Sud et les pays du Nord, et ce qui a empêché pendant très longtemps d'avoir un accord international. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous avez dit que le financer la lutte contre les dérèglements climatiques serait très coûteux, mais il faut savoir que le statu quo est également extrêmement coûteux, et même d'une certaine manière, avec des coûts exorbitants et qui ne sont pas soutenables pour les sociétés. Et donc du coup, la question n'est pas de savoir s'il faut financer la transition énergétique ou ne pas la financer, mais c'est plutôt comment la financer. Et de ce point de vue-là, oui, effectivement, on peut évoquer cette question sous le terme de financer le climat. Nous, notre difficulté ou le point qu'on va pointer pour montrer les limites de cette question-là, c'est peut-être qu'il faut financer la transition énergétique, mais encore ne faut-il pas financiariser le climat, ou finalement donner les clés du camion, les clés de la transition énergétique à un système financier qui a un pouvoir exorbitant sur le pouvoir politique aujourd'hui, qui a un pouvoir exorbitant sur nos vies, qui est source de déséquilibre majeur. On est à peine moins de 10 ans après la grave crise de 2008, et un système financier donc qui est source de déstabilisation. Est-ce qu'on veut lui confier notre avenir? Est-ce qu'on veut lui confier l'avenir de la planète? Est-ce que finalement on veut confier au marché financier et au système financier tel qu'il existe financement réel de la lutte contre les dérèglements climatiques? Et ça, de notre point de vue, c'est extrêmement dangereux.
Votre point de vue, donc, les organisations, notamment le mouvement ATTAC auquel vous faites partie, et peut-être plus globalement les ONG qui dénoncent depuis bien longtemps l'opacité et le risque aussi d'une confusion. Étienne Espagne.
Oui, alors je voudrais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est tout l'enjeu, et on voit que le secteur financier a sans doute saisi avant même les régulateurs ou même les économistes académiques, je dirais, l'enjeu de ce sujet en tout de suite en essayant d'orienter le débat sur cette question de simplement l'information carbone des portefeuilles financiers, et puis point, ce sera tout. Alors, je voudrais évoquer quand même un rapport qui est sorti très récemment, qui en partie traite de ce sujet. Et alors il a été un peu passé comme ça sous le radar en raison des événements liés à Trump, la sortie de l'accord de Paris des États-Unis. C'est un rapport de la commission commission Stern-Stiglitz. Donc, deux bien économistes sûr. De très grand renom. Nicolas Stern, qui avait publié
Nicolas
ce, premier,
notamment,
ce premier grand
bien
rapport
sûr.
En 2006-2007 sur le coût de l'inaction face au changement climatique. Et puis, le prix Nobel d'économie Stiglitz. Et puis derrière, toute une commission avec des économistes et spécialistes du climat de tout, à peu près tous les continents. Et qui donne une fourchette de prix du carbone absolument indispensable pour éventuellement atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc 40 à 80 dollars la tonne de carbone d'ici à 2020, dans le monde entier, hein, on ne parle pas de pays développés, et puis 50 à 100 dollars la tonne de carbone d'ici à 2030. Et ça, ça doit être accompagné d'autres politiques, et notamment des politiques qui vont re-réguler les systèmes financiers, les marchés de capitaux.
Ouais, le prix voilà. du carbone au cœur du débat, et il n'est pas assez cher ce prix-là. On croit encore que la nature est gratuite et son utilisation l'est encore plus, ou bien qu'elle est à crédit. C'est ni l'un ni l'autre en réalité. Mireille Martini, on voit bien comment, si l'on veut convaincre, comme vous le dites dans votre rapport, et entraîner les financiers, hein, je vais un petit peu vite, dans ce débat. On voit bien, par exemple, comment les assureurs peuvent y entrer. Katrina, par exemple, le phénomène est bien connu, a coûté extrêmement cher aux compagnies d'assurance. On imagine que 4 ou 5 catastrophes aussi graves que Katrina, ou ce qu'on peut voir au Bangladesh, par exemple, coûteraient des fortunes aux assureurs. C'est peut-être leur intérêt bien compris. On voit moins l'intérêt des fonds spéculatifs et même des fonds de pension. Vous pourriez nous l'expliquer en quelques secondes, comment vous espérez les convaincre ?
Oui, absolument.
Alors, encore pour les assureurs, voilà. Peut-être que c'est pas si simple.
Voilà. Alors, disons, pour répondre d'abord sur la question des fonds de pension. Moi, je crois, enfin, dans ce que j'observe, les caisses de retraite et les fonds de pension font vraiment partie de la partie du monde financier qui est, j'allais dire, le plus pro-climat, qui est vraiment actif pour pousser, pour participer à tous les comités dont Étienne a parlé. Et pourquoi ? C'est parce que l'instabilité de la finance, Maxime a parlé de la crise de 2008, la manière dont la crise de 2008 a été résolue, bon, sans rentrer dans les détails, on est depuis longtemps, en fait, depuis les années 2000, dans un univers de taux d'intérêt très bas. Les taux d'intérêt très bas, ça veut dire que les fonds des caisses de retraite qui sont placés en obligation rapportent très peu. Donc, quand vous avez garanti des assurances-vie, par exemple, à 5 ou 8% par an, et que le taux des obligations est en dessous de 1%, vous avez un gros problème. Et les caisses de retraite ont ce gros problème. Et d'autre part, comme la finance, on l'a dit, est dérégulée et spéculative, elle ne s'oriente pas assez vers l'économie réelle. Ça veut dire que dans les fonds de pension, il n'y a pas assez des investissements qu'il y avait autrefois. Nous, on a tout un tas d'infrastructures physiques, terrestres, j'allais dire. Alors, c'est peut-être pas les bonnes, puisque c'était décarboné. Mais n'empêche que toutes ces infrastructures, elles ont été construites avec de l'épargne. Avec de l'épargne qui était les fonds de pension. Et aujourd'hui, les fonds de pension manquent terriblement d'actifs longs,
oui,
d'actifs réels,
virtuels,
avec un tout petit peu de rémunération.
Mais alors comment faire pour les faire venir ?
Le fonds de pension, il serait absolument ravi de financer la rénovation énergétique, par exemple, d'un parc public de bâtiments, qui va être une opération très longue sur 25 ans, et qui ne va pas rapporter beaucoup, qui va rapporter juste les économies d'énergie. Ça veut dire quoi ? 2% par an. Ça, les caisses de retraite, elles en rêvent. Elles veulent que ça vienne. Et la raison pour laquelle ça a du mal à venir, enfin, il y a deux raisons pour lesquelles ça a du mal à venir. Primo, l'énergie n'est pas chère. Donc, le rendement aujourd'hui d'une économie d'une énergie pas chère, il est faible. Et la deuxième raison, c'est celle qu'a mentionnée Étienne en parlant du rapport Stern-Stiglitz. L'intérêt principal de la... Il y a deux intérêts, par exemple, à faire des rénovations énergétiques. Primo, économiser de l'énergie. Comme je vous ai dit, intérêt faible parce que l'énergie est pas chère. Deuxième, économiser des émissions. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans le monde économique actuel, l'économie d'émissions n'est pas valorisée financièrement. D'où la nécessité d'une régulation, et c'est en ceci, et merci Étienne encore d'avoir mentionné ce rapport Stern-Stiglitz, parce que c'est
Étienne
ce que dit
Stern-Stiglitz. Ouais.
Voilà. Le fait de mettre un prix sur le carbone dans la régulation, ça rentabilise des masses d'investissements qui sont des opportunités pour stabiliser la finance. Ça, c'est très important.
Et on ne parle pas assez, effectivement, de l'argent perdu, hein, gaspillé, en ne le faisant pas. Maxime Combe à Lyon.
Deux remarques. La première, c'est que je ne crois pas à un mouvement spontané des acteurs financiers qui, d'ailleurs, depuis très longtemps, font du lobbying contre toutes sortes de mesures, régulations contraignantes, de mécanismes qui les obligeraient à investir dans tel ou tel secteur, préférant de la soft law, préférant des engagements volontaires, des engagements non contraignants. Et ceci a des conséquences extrêmement fortes, y compris sur les dispositifs verts financiers qui sont en train d'être mis sur pied. Et de ce point de vue-là, par exemple... le mouvement de désinvestissement des secteurs liés aux énergies fossiles n'est pas un mouvement qui est venu spontanément des acteurs financiers. Il est venu lié à des mobilisations citoyennes, notamment dans les universités américaines, sur le plan moral, disant qu'il n'était pas possible de financer à la fois des acteurs qui détruisent l'avenir de ces étudiants, tout en contribuant à travers ces financements-là au financement des universités. Donc du coup, on a un fort mouvement citoyen pour le désinvestissement du secteur des énergies fossiles, et ceci devrait être aujourd'hui traduit par des politiques publiques. Par exemple, il est complètement aberrant en France que nous ayons des acteurs encore majeurs des investisseurs publics comme la Caisse des dépôts et consignations et d'autres qui continuent d'investir dans des projets qui sont incompatibles sur le plan du climat. Deuxième petite remarque sur la question de la tarification carbone. Nous ne sommes pas contre, et je suis plutôt enclin à considérer qu'effectivement il faut des éléments de fiscalité écologique pour pouvoir organiser la transition écologique, et y compris via des mécanismes de tarification carbone. Maintenant, il faut se départir de deux illusions. La première, c'est de considérer qu'il n'y aura pas de tarification unique du carbone à l'échelle planétaire, pour plusieurs raisons. Un, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan technique, c'est strictement impossible à mettre en œuvre. La deuxième chose, c'est parce que l'élection de Donald Trump aujourd'hui renvoie au calendrier toute possibilité de ce type-là.
Ouais,
et le deuxième élément qui me semble très important, c'est aussi de se départir de ce mythe selon lequel il suffirait de mettre un prix au carbone à l'échelle internationale pour régler la question climatique. Et de ce point de vue-là, il faut aussi se rendre compte que les mécanismes et que le dispositif financier ne sont pas neutres du point de vue politique, de la justice sociale. La tonne de carbone émise par un conducteur habitant le 16e arrondissement de Paris et traversant Paris avec son 4x4, n'est pas équivalente du point de vue de la justice sociale, du point de vue politique, du point de vue des dynamiques sociales de la société à une tonne de carbone émise par un paysan au Malawi. Et le fait de mettre une tarification unique sur le carbone contribue à laisser entendre que du point de vue du climat, c'est équivalent, et donc du coup ça devrait être équivalent du point de vue de l'organisation de la société.
Alors,
et ceci est extrêmement problématique.
Vous ne voyez pas soupirer Mireille Martini et lever les yeux au ciel? Ça doit faire partie de notre débat. Étienne Espagne vous répond le premier.
Non, alors pas du tout. En fait, je pense que Maxime n'a pas eu le temps de lire le rapport. C'est un cycliste, parce que c'est absolument tout ce que dit ce rapport.
Il est très récent, on le rappelle.
Je ne réagis pas sur le rapport Stan Siglitz, je réagis sur le débat public tel qu'il est
organisé. Ah oui, absolument.
Et autour de la COP 21, je ne réagissais pas à vos propos propres ou au rapport en tant que tel, mais simplement, je pense qu'il faut tenir compte des enjeux sociaux et des enjeux politiques dans les outils de tarification carbone ou de fiscalité écologique.
D'autant plus important de donner tout l'écho nécessaire à ce travail récent, parce que justement, il sort du piège du prix unique mondial du carbone qui occupe encore beaucoup trop les économistes. Il propose un corridor, et puis surtout il insiste lourdement à chaque chapitre du rapport sur la question des politiques complémentaires nécessaires, qu'il est nécessaire de mettre en œuvre sur...
Un exemple
Justement la question de l'équité, et il montre bien que un prix du carbone dans un pays en développement émergent ou un pays développé n'a absolument pas le même impact sur les différentes catégories de ménages. Donc il y a vraiment, on sort grâce à ce rapport là, bon, je cite ce rapport beaucoup, mais c'est quand même, je pense, un épisode important,
leviers,
parce que l'idée c'est qu'il génère de nouveaux débats,
ouais.
Donc on sort vraiment de cette idée du prix unique mondial du carbone, vraiment.
Ouais. D'autres leviers, bien sûr, à l'échelle mondiale, hein, cette fois, on y reste d'ailleurs. Réglementation évidemment plus stricte des marchés financiers par les États, ils tentent de le faire, comme on le sait, mais il faut aller bien plus loin. Réforme du système monétaire international, ça fait partie des points que vous proposez, Mireille Martini, et implication, bien sûr, des entreprises et de l'ensemble de la société. Et là, quand même, je trouve que Maxime Combes fait bien de le dire, on voit, il se passe des choses tout à fait intéressantes. La société est mobilisatrice, et elle peut bien sûr appuyer sur la volonté politique, comme on le sait, on ne pourrait que le souhaiter. Sur les assureurs, je reviens tout petit peu en arrière, vous nous avez répondu sur les fonds de pension. Les assureurs, je disais, ont peut-être intérêt à suivre ce grand mouvement, mais ils ne le font pas forcément, et alors il y a parfois des effets très pervers, je mentionnais Katrina.
Voilà, alors disons que suivre, ça peut avoir deux sens. Les assureurs sont très précieux parce que aujourd'hui, les compagnies d'assurance qui ont été largement
très puissantes, on le rappelle, hein.
Qui ont été aussi largement privatisées, aujourd'hui, les compagnies d'assurance observent les risques. C'est-à-dire que c'est eux les premiers qui sont capables de mesurer les risques climatiques parce qu'ils les voient, dans les remontées de dommages. Donc ils sont très précieux de ce point de vue-là. Alors, j'ai tendance à dire que les assureurs sont engagés, mais ils peuvent être engagés d'une autre manière qui consiste à agir. Je voudrais simplement dire qu'aux États-Unis, par exemple, la réaction immédiate des compagnies d'assurance, qui, je le rappelle, sont privées, ça a été de se retirer des marchés difficiles à assurer. Par exemple, il est devenu extrêmement difficile d'assurer une villa sur la côte de Floride en raison du risque de montée des eaux qui est évident et avéré. Ou un bateau, par exemple.
Il y a peut-être même une ville.
On voit bien le danger. Le danger, c'est que les assureurs, face à la montée des événements climatiques extrêmes, se retournent vers les États. En déclarant catastrophe naturelle, pour résumer d'une manière grossière. Et ça, c'est très difficile parce qu'on est aussi dans un contexte où les États ont du mal à se financer. Donc, qu'en sera-t-il en termes de protection de la population ? J'allais dire de protection de l'économie, mais c'est avant tout... Ça, c'est des questions de justice sociale très importantes aussi.
Voilà bien le danger pointé quand même.
Les assureurs ont un intérêt, mais je dirais la société a un intérêt aussi à se poser la question de la manière dont le secteur assurantiel est organisé face à des risques qui vont être massifs. Et une dernière chose, Dominique, parce que je voudrais bien dire, vous avez mentionné Katrina. Il y a les catastrophes naturelles, c'est ce à quoi on pense. Mais il y a aussi autre chose qui est tout simplement le fait qu'il y a eu des inondations en Thaïlande. Elles ont coûté plus de 20 milliards de dollars à l'industrie américaine en 2011. Pourquoi ? Parce que les bateaux qui apportent les composants électroniques depuis l'Asie du Sud-Est passaient par les ports thaïlandais. Donc il faut bien voir que ça va être absolument majeur. C'est-à-dire que les inondations, c'est pas seulement des catastrophes naturelles, ça va détruire des chaînes industrielles, des chaînes de production, des chaînes agricoles et tout ça. Donc le dommage est immense, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs au début. C'est bien la raison pour laquelle il faut de manière urgente financer et l'atténuation, c'est-à-dire le changement d'économie, et l'adaptation, c'est-à-dire l'aide à la résilience des infrastructures existantes.
J'aimerais quand même, sur les dernières minutes, Étienne Espagne, encore un mot là-dessus.
Oui, le mot-clé, pour rebondir sur ce que vient de dire Mireille, c'est systémique. Le changement climatique, c'est un risque systémique. À partir du moment où ça sera admis par les acteurs financiers, alors ça implique de modifier la régulation financière, que ce soit régulation de Bâle 3, Solvency 2, etc., pour prendre en compte le changement climatique. Mais le mot-clé est vraiment important, c'est systémique. C'est-à-dire inassurable. On peut pas, in fine, on peut pas s'assurer contre le changement climatique.
Je disais, j'aimerais finir, parce qu'on est déjà vers la fin, mais sur des points quand même plus positifs. On les a mentionnés rapidement. Explosion quand même des obligations vertes. On a le sentiment que ça, c'est quelque chose qui démarre. Le boom des investissements, par exemple, annuels dans les renouvelables. J'en parle de manière extrêmement positive, mais vous allez voir que c'est quand même moins bien que ça. Engagement des banques, on l'a dit. Le secteur des assurances, sous réserve de ce que nous dit Mireille Martini. Tout cela ferait que ce mouvement produit à peu près 50 fois plus aujourd'hui de milliards de dollars, génère de l'argent, 50 fois plus qu'il y a un an. Ça a été dit tout ça au moment de l'accord de Paris. Sauf que comparé aux 1000 milliards de dollars qui seraient nécessaires chaque année d'ici 2020, évidemment, c'est très, très, très largement insuffisant. Vous connaissiez ces chiffres ? Vous voulez faire un commentaire ? Mireille Martini, on est loin du compte. Et Maxime Combes peut-être à Lyon.
Oui, enfin les chiffres de rapport Stern rapidement, mais bon, peu importe, c'est des chiffres tellement immenses, tout ça.
C'est un peu vertigineux.
C'est plutôt 6 000 milliards de dollars par an. J'insiste cependant sur le fait qu'il ne s'agit pas d'investissement nouveau.
6 000 qu'il faudrait par an ?
Oui, il faut 6 000 milliards de dollars par an, c'est ça les chiffres.
Et d'où viennent ces 1 000 milliards alors ?
Les 1 000 milliards, ils viennent seulement d'une partie du problème. Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de les 1 000 milliards, en gros, c'est ce qu'il faut pour décarboner l'énergie. Mais pour lutter contre le climat, il ne faut pas seulement décarboner l'énergie. Il faut changer complètement les processus de production de manière à sauvegarder la biodiversité, etc., etc. Donc simplement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas de l'argent nouveau. En fait, c'est très simple. Il faut simplement réorienter un certain nombre d'investissements qu'on fait pour l'instant et principalement dans les énergies fossiles, et dans la construction d'un certain type d'infrastructures, des aéroports, etc., vers d'autres investissements. C'est de la réorientation, c'est pas nécessairement du nouveau.
Les derniers mots pour vous, Maxime Combalion.
Deux remarques rapides. Effectivement, l'enjeu majeur aujourd'hui est effectivement pas simplement de mettre sur pied des dispositifs qui vont être à la marge des marchés obligataires ou marchés actionnariaux ou marchés financiers tels qu'ils existent. C'est de faire basculer des pans entiers des financements à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, les outils ne sont pas là. Et compter exclusivement sur les engagements volontaires non contraignants du secteur financier lui-même
suffira pas.
Est est extrêmement problématique. Je vous donne un seul exemple. Vous avez parlé des obligations vertes, qui reste un marché effectivement en explosion, mais qui représente 0,01% du marché obligataire mondial. C'est rien du tout, c'est à la marge. Et dans ce marché-là, on n'a que des engagements volontaires, non contraignants, on n'a pas de dispositif pour réellement vérifier ce qui est vert de ce qui n'est pas vert dans les obligations vertes émises par les États ou par les multinationales et les acteurs économiques et financiers. Et par exemple, on a le financement de l'aéroport de Mexico, qui est une obligation verte de 2 milliards de dollars. Est-ce que la construction d'un aéroport aujourd'hui est ce dont réellement nous avons besoin et que nous pouvons repeindre en vert en disant qu'il est financé par une obligation verte? Et c'est là principalement le problème, et c'est là la nécessité du fait de pouvoir, à un moment donné, désarmer les marchés financiers à travers toute une série d'outils, comme la taxe sur les transactions financières et toute une série d'outils qui doivent permettre finalement de désintermédier ces marchés et de les rendre régulable par le pouvoir public et la puissance publique afin effectivement de s'assurer qu'on puisse financer la transition énergétique. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cœur du débat. C'est des choses qui sont laissées à la marge et on préfère
compter sur
les aspects vertueux des acteurs financiers.
Merci Maxime Combe, merci à tous les trois pour vos éclairages. On passe tout de suite à vos chiffres. Et on commence avec Marie Bellon, journaliste aux Échos. Votre chiffre, Marie, aujourd'hui?
Alors, 1,4%, c'est la prévision de croissance pour la France qui a été établie par la Banque de France pour 2017. Et c'est une bonne nouvelle, car cette estimation qui a été rendue publique hier est meilleure que prévu, même mieux pour l'an prochain, donc en 2018. La prévision de croissance de la Banque de France a été également relevée à 1,6%. Alors, comme dirait François Hollande, ça va mieux. Hein, vous vous souvenez, c'était sa petite phrase qu'il en avait fait un peu un mantra de sa fin de quinquennat. Ben, c'est vrai, il a raison. La croissance va bien continuer à augmenter en plus, mais avec un changement important de paramètres. Si la consommation des ménages est restée plutôt soutenue durant ces derniers mois, dernières années, du fait de la baisse du prix du pétrole, cette époque, on en parlait un peu, mais est en passe d'être révolue. Et c'est désormais l'investissement des entreprises, tiré par des taux d'intérêt bas, qui prend le relais. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'économie française, car ces investissements sont en général suivis de création d'emplois. Cette inversion des facteurs de production est aussi la preuve que le pacte de responsabilité, et notamment le crédit impôt compétitivité emploi, dans le fameux CICE, produit bien des effets positif sur la croissance, mais 3 voire 4 ans après son lancement. Alors la Banque de France souligne également que les exportations, qui sont un peu le talon d'Achille de l'économie française, devraient aussi être moins pénalisantes que les autres années sur la croissance. La contribution du commerce extérieur sur la croissance française reviendrait même positive en 2018 et 2019 selon les experts. Alors attention toutefois de ne pas pêcher par optimisme.
Attention.
Voilà, d'abord parce que la croissance française reste inférieure à la moyenne de la zone euro, qui est quand même de 1,9% pardon, pour 2017. Ensuite, parce que ce niveau de croissance, alors s'il est meilleur que prévu, il reste bien sûr insuffisant pour créer une véritable dynamique de création d'emplois qui nous permettrait de décrocher de ces 9,1% de chômage qui sont toujours prévus pour 2019, là aussi par la Banque de France. Alors les fondamentaux de l'économie française restent eux aussi fragiles, puisqu'on voit que la production manufacturière a reculé au mois d'avril et que l'industrie reste à l'écart de cette embellie conjoncturelle. Il faudra donc plus que les seuls effets des réformes du précédent quinquennat pour retrouver une situation économique profitable à tous et sur le long terme.
Eh bien, nous le saurons très vite. Merci Marie Bellon. Encore un chiffre, peut-être deux. Allez, Mireille Martini.
Donc, très rapidement, merci Dominique. Moi, mon chiffre, c'est 50%. 50%, c'est la part des économies d'énergie, c'est la part de l'efficacité énergétique dans la réduction totale des émissions qui est nécessaire pour lutter contre les gaz à effet de serre. Je voudrais juste le mentionner parce que on parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais les énergies renouvelables, c'est une petite partie du chemin qu'il faut faire pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est principalement un effort d'économie et d'efficience.
Pas d'autres chiffres, non, très très vite, à moins qu'Étienne Espagne le fasse en moins de 2 secondes. 10, allez, 10.
34. Nombre de perturbateurs endocriniens trouvés dans les cheveux d'enfants de 10 à 15 ans. Selon une étude récente de 60 millions de consommateurs.
Ah ben merci, léguez votre chiffre. Merci encore à tous les trois, à Maxime Combe qui est à Lyon et Claire Guyot qui s'occupait d'assurer cette liaison au studio de Radio France à Lyon. Chez nous à Paris, c'est Jean-Guillaume Hège et Pascal Baudin avec bien sûr la réalisation de Laetitia Coya. Sans oublier notre Laurence Jeunepin pour la préparation, pour la documentation. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons samedi prochain. Et tout de suite, ça va être l'heure du journal avec Anne Fouquemberg.